Philippe, j'ai envie de dire ouf.
Enfin, nous y arrivons, nous allons le produire, ce Retro Game Test.
Alors, bonjour à tous, salut Philippe, Philippe Dubois, je dirais.
Salut, bonsoir tout le monde.
Bonjour, je dirais. Non, alors, Philippe Dubois de l'association MO5, le président de l'association MO5.
Enchanté, lui-même.
Voilà, alors aujourd'hui, on discutera de l'association. On ne peut pas faire un test avec le président de l'association sans parler de l'association. Mais dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester un jeu. Mais à quel jeu allons-nous jouer?
Donc on a sélectionné un jeu parmi les trésors du jeu vidéo. C'est un jeu de Treasure, c'est bien pour ça que c'était un trésor. C'est celui de Mirage sur Saturn, donc également sorti sur PlayStation. Il est sensiblement moins bien sur PlayStation, donc évidemment pour ceux qui voudront y jouer, je leur conseille de jouer plutôt sur Saturn. L'intérêt d'un jeu Treasure, pour ceux qui connaissent un petit peu l'éditeur cultissime, hein, c'est qu'il a produit des jeux tellement bons sur différentes plateformes. Et même dans ce Mirage, on a enfin accès. Merci de se demander. Il sera d'accord avec moi. On a accès.
Je suis totalement d'accord avec ce que dit le président de
MO5. Je vous l'avais dit.
On va un petit peu avoir du mal aujourd'hui, je pense.
Vous êtes motivé quand même.
Oui, on est très motivé. Alors, Philippe, on va peut-être commencer pendant que Cyril perturbe.
Ah ben, je pense qu'il va bien le faire.
Si vous souvenez un peu
étrange, là.
Un certain Level One. Le président.
Naïf et pur. Je ne savais pas.
Et ben, ça vous rappellera les souvenirs. Allez, beau jeu.
Ouais, beau jeu. Merci Cyril.
Merci aussi Cyril.
Et tu passeras ta carte postale. Hein. Il faut qu'il nous la montre.
Regardez, c'est mythique. La signature vidéo Kojima. Ça tue.
Voilà, exactement. Ouais, merci Cyril.
Allez, jouez bien les mecs.
Ouais.
Bon, Cyril.
Alors là, maintenant, je vais te laisser à ton micro qui est ton partenaire de vidéo. Alors, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, on l'a peut-être pas dit, mais on est au Japan Expo aujourd'hui.
C'est vrai.
Et spécialement au Japan Expo, sur le stand de MO5 et avec le président de l'association MO5. C'est la totale.
Yeah.
Alors, vas-y, je te laisse commencer. C'est toi le chef aujourd'hui là.
Ok, bah écoute, j'espère que le son sera bon cette fois-ci. On se connaît quand même beaucoup de mal. Donc Silhouette Mirage, un jeu de Treasure. Treasure, c'est l'éditeur japonais qui est absolument fantastique. Je pense que la majorité des programmeurs de la boîte de Treasure, il y avait vraiment des gens qui ont programmé, qui ont sorti les tripes réellement des machines sur lesquelles ils étaient. Et si on peut citer un jeu mythique parmi les plus grands jeux du monde.
C'est ce que tu vas dire.
Eh oui, on va parler quand même de Radiant Silvergun, qui est le shoot'em up, qui n'a jamais été surpassé depuis, qui est le petit trésor de Treasure.
De Treasure,
voilà. Et qui est le meilleur shoot'em up du monde, tout simplement.
Et alors, on essaiera de toper Douglas tout à l'heure, qui doit être quelque part sur le stand, qui m'a sorti quelque chose, j'ai pas très bien compris, mais il viendra nous expliquer. Alors maintenant, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Silhouette Mirage? Alors on va peut-être passer le tuto et éventuellement tu nous expliqueras au cours du jeu le maniement peut-être.
Yes, alors là comme un abruti je me suis trompé de bouton donc le
on
tuto
est en
cours.
On est obligé de
subir,
non?
Ouais, je vais faire un petit reset vite fait. Hop,
d'accord,
là.
Très bien.
Voilà. Silhouette Mirage, c'est l'image va se rétablir, heureusement. C'est un jeu qui est vraiment très très original. Encore une fois, de toute façon, c'est un jeu Treasure, donc ils sont tous super originaux. C'est obligé, c'est la marque de fabrique. Dans celui de Mirage, c'est une espèce de mélange de plateforme, de beat'em up, de RPG. C'est très très mixte.
C'est d'ailleurs c'est ça qui fait. Ah, t'as recommencé, non?
Non, je vais pouvoir sélectionner cette fois-ci.
C'est d'ailleurs ça qui fait la particularité que je dis souvent de Treasure, c'est qu'ils font des jeux qui ne sont pas conventionnels, dans le sens où c'est pas un jeu de plateforme. Et ce sera un Mario où tu vas sauter sur des plateformes en plateforme, t'auras de la plateforme, du shoot, ce sera vraiment très diversifié. Treasure, ils font pas du standard.
Non, absolument pas. Et il y a un autre élément dans Treasure, c'est que ce sont des artistes. C'est vraiment des artistes de la 2D. Donc il se trouve que notamment dans Seven Mirage, comme d'autres, bien d'autres jeux de chez Treasure, il y a un level design qui est soigné, mais aux petits oignons. Ce sont vraiment des trésors de la 2D. C'est-à-dire tout ce qu'elle peut produire la 2D, de meilleurs effets graphiques, comme on peut le voir là,
magnifique.
Avec des zooms, avec des rotations, une transparence, avec une espèce de mise en scène. C'est vraiment de la mise en scène, hein, c'est un chef-d'œuvre.
C'est vrai que c'est magnifique.
Seven Mirage. On est vraiment sur une œuvre extrêmement aboutie, extrêmement perfectionnée. Et on le ressent bien, on n'est pas face à juste un espèce de level design dans lequel on aura trois plateformes et demie. Chaque niveau est radicalement différent les uns des autres. Et à chaque fois, ça crée une surprise.
C'est les aléas du Japan Expo, je dirais.
Voilà qui est bien raconté.
Alors oui, j'allais dire une chose, ça n'existe pas dans la version PlayStation, cette séquence, de mémoire.
Non, la version PlayStation est nettement inférieure sur le plan de le plan graphique, puisque notamment la PlayStation est moins performante en technologie 2D, elle est beaucoup plus forte que la Saturn en 3D, mais elle est beaucoup moins forte en 2D. C'est comme ça, on ne pouvait pas tout faire à l'époque.
C'est la vie. Hein.
Voilà. Et donc, la majorité des effets graphiques ou la profondeur de champ, la qualité des décors de ces numérages ont en moitié disparu dans la version PlayStation. C'est pour cela que réellement pour avoir accès, là c'est magnifique.
Et ça, ce n'est pas sur PlayStation. Je ne sais pas si je dis une bêtise ou pas. Faudra peut-être vérifier, mais je ne pense pas.
Je ne sais plus si c'est vraiment dans la version PlayStation. En tout cas, les effets graphiques sont bien moindres dans la version PlayStation.
Alors maintenant, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le jeu
Alors sur le jeu lui-même, il se trouve que c'est une espèce de mélange de plateforme, de beat'em up, de RPG. Ça se passe dans une espèce de futur assez lointain. On a bien évidemment, et un peu comme toujours chez Treasure, des savants fous qui ont essayé d'améliorer plus ou moins l'humanité et qui en fait ont tout pété à la surface de la planète et qui ont créé une espèce de disparité génétique entre deux espèces à la surface de la planète qui sont soit des silhouettes, soit des mirages. C'est pour ça que le jeu s'appelle Silhouette Mirage.
Silhouette Mirage, waouh.
Et c'est extrêmement profond, attention, ça a été réfléchi. Et votre personnage ici, si je me tourne, alors ici il est bleu, si je me tourne il va devenir rouge. Et en fait, chaque fois que je tourne, il est soit silhouette, soit le mirage. Et ça veut dire
silhouette
que...
mirage.
D'où silhouette mirage. Et lorsque je vais taper sur les ennemis, eux-mêmes sont soit silhouette, soit mirage. Donc je dois être de la bonne couleur pour pouvoir me débarrasser de mes ennemis.
Et on y reviendra tout à l'heure, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai ramené deux jeux à montrer aux gens. Mais on reviendra tout à l'heure, je te laisse continuer sur ça.
Yes. Et hop là, je fais un petit vol plané. J'ai ici mon petit marché en fait. Je vais acheter non pas des carottes et des navets, ni des silhouettes et des mirages. Je vais pouvoir changer d'arme. Donc un petit tip quelque part. Pour moi, la meilleure arme pour aborder ce jeu et pour se débarrasser des boss le plus rapidement, c'est le dragon.
Et alors je vois qu'il y a écrit level 1 au-dessus, ouais. C'est-à-dire que tu peux upgrader ta magie.
Exactement, au fur et à mesure du jeu, on va pouvoir non seulement upgrader nos magies, on va pouvoir en sélectionner jusqu'à 3 différentes, et on va pouvoir également revendre les anciennes.
D'accord.
Et il y a tout un aspect gestion, on le voit sur ma barre de vie, j'ai deux barres de vie en fait, je ne sais pas si on le voit.
Oui.
J'ai une barre rouge qui est ma vraie barre de vie, et j'ai une barre verte qui est finalement ma barre de magie quelque part.
D'accord.
Et la puissance de mes tirs est en fait proportionnelle à ma barre de magie. Voilà, je reviens sur le marché, je ressors. Et les deux barres s'alimentent. Donc là, je vais essayer de sauter par-dessus tout ça. Et je vais pouvoir utiliser mon nouveau pouvoir.
Mais sur le moment, les petits personnages, c'est quoi? C'est des robots, des androïdes? C'est quoi exactement?
Ouais, alors c'est très nippon parce que c'est des espèces de poupées très kawaii qui soulèvent leurs culottes et leurs jupes pour tirer dessus. C'est très con, c'est très nippon, j'adore.
Je vais dire même une chose. Moi, j'ai joué surtout à la version PlayStation américaine, mais il me semble que la version américaine est censurée.
C'est possible. C'est pas possible.
Il me semble. Hein.
Regardez ce passage, c'est très original. On a un gros robot, et en fait, il pète le plafond, tout s'écroule. Et c'est ça qui fait la, une des forces de l'essieu de Mirage, c'est que constamment, lors du level design, lorsqu'on avance dans, dans le niveau, on ne sait jamais à quoi s'attendre.
Ouais, c'est ça.
La, la créativité des designers, de l'éditeur de Treasure, fait qu'on est toujours surpris.
Et c'est d'ailleurs pour ça que je dis que c'est jamais conventionnel. Treasure, c'est jamais. Les autres jeux de plateforme, je dirais, on sait à quoi s'attendre. On part d'un point A à un point B. Et c'est linéaire, je dirais. Et Treasure, y a, tu descends comme là, ou tu peux monter dans une voiture. C'est vraiment, c'est loufoque, je dirais presque. C'est fou, quoi.
C'est très loufoque. C'est très second degré. On le verra peut-être dans cette vidéo, parce qu'il faut avancer un petit peu. Mais il y a des passages vraiment très drôles. Il y a un passage dans lequel vous vous battez contre une espèce de boss de milieu de niveau. Et finalement, vous ne le tuez jamais. Pourquoi ? Parce que, en fait, à un moment donné, vous êtes dans une ville et votre combat fait trop de bruit et ça énerve les habitants de la ville. Et donc, c'est eux qui vont tuer le demi-boss. D'accord. En lui envoyant des frigos, des poubelles et n'importe quoi.
Oui, je me souviens de ce boss-là. Ouais.
Et ce passage est trop drôle, il est génial.
Quoi. Et tu penses qu'on va y arriver, on va pouvoir y aller ou c'est trop loin dans le jeu ?
C'est assez loin dans le jeu, mais je pense qu'on va y arriver. Là on va sortir, voilà, merde, je me suis fait toucher, un petit obstacle. Voilà.
Qu'est-ce que tu as envie de nous dire bah, au-delà de ça? Donc là on parle de l'aspect Treasure dans l'esprit des jeux qui font, mais est-ce que tu peux nous dire autre chose maintenant au niveau graphisme, peut-être au niveau du son
On est sur une plateforme que j'ai envie d'encenser, qui est la Sega Saturn. Donc effectivement je suis bien sûr que tout auditeur sauront exactement ce que c'est la Sega Saturn. La Saturn est donc l'avant-dernière console de Sega. C'est une console qui technologiquement était très avancée à l'époque, surtout pour la 2D et le côté sonore. Voilà. C'est la machine la plus puissante en 2D qui ait jamais été créée.
Ouais.
Voilà, comme ça, les dés sont
jetés. C'est même peut-être plus puissant que de la Neo Geo dans le sens où tu peux faire de la 2D avec de la 3D. Là.
Bien sûr, on peut non seulement mélanger les deux, 3D et 2D, parce qu'elle est capable de faire un peu de 3D. Et qui plus est, elle dispose de beaucoup plus d'attributs graphiques, beaucoup plus de plans que la Neo Geo. La Neo Geo, finalement, vous avez deux plans graphiques, des rotations, mais finalement, tout est assez limité. On peut faire des très belles choses sur la Neo Geo. Mais finalement, la Saturn est capable, pour près, de faire, s'il faut donner un ordre de grandeur, 3 ou 4 fois plus de choses que d'afficher 3 ou 4 fois plus de plans d'objets que la Neo Geo.
De ce fait, le processeur est cadencé à une fréquence beaucoup plus élevée.
Beaucoup plus élevée. On a cette capacité de la Saturn. Hop là, voilà, le boss a été éliminé. Donc, vous avez remarqué que ça, c'est extrêmement original. C'est pas mes tirs qui ont descendu le boss. C'est parce que le boss est trop con et donc il faut le faire trébucher. Et là, il perd de la vie parce qu'il trébuche.
Ouais.
C'est génial. Et on retrouve plein de petites astuces à la con comme ça.
Attention, il y a Piccolo qui vient.
Piccolo.
Piccolo vient nous dire bonjour.
Non, Piccolo, il est trop bien fait. Piccolo. Moi, il me fout les boules. Moi, j'ai peur, non.
Bonjour, Piccolo.
Hello.
Hello.
Hey, mon frère.
Oh, hello, bon hello, demi. Viens, c'est 17.
Yeah. Alors, ouais. Ils sont énormes.
On va essayer de continuer l'émission. Alors, vas-y, alors, qu'est-ce que tu aimes ce jeu, hein, Piccolo?
J'adore.
Il adore, il aime.
Tous les jeux de MO5, j'adore.
Oui, c'est M.
Il a confiance en lui, il a raison. Si on présente des jeux, ce sont des bombes.
Il est beau votre costume, les gars.
On n'est pas costumé, nous, on est du manga.
J'ai jamais vu un Piccolo aussi beau de la vie. Moi, je suis vraiment super impressionné.
Ah, ouais, d'accord. Alors, qu'est-ce que tu veux. Eh, les gars, vous voulez peut-être commenter le jeu? Il vous plaît graphiquement?
Ça va, pour les box, franchement, ça passe.
C'est sympa.
Ça va pas trop vieilli.
C'est une console qui vient du futur, là, Saturn.
Ouais,
elle vient de l'espace, vous devez la connaître.
On la connaît, ouais, on va souvent là-bas.
Ouais, voilà. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire, Philippe, sur le jeu?
Ben, donc, Treasure, ce sont des gens qui sont vraiment très doués pour la programmation. Ouais,
ah,
c'est un caméra, exactement.
C'est familier.
Tu vois, ça t'est familier. Et ce sont des gens qui ont su exploiter immédiatement, en fait, la Saturn pour toutes ses caractéristiques techniques. Oh, j'ai peur. Et c'est vraiment très très spécial. Et, je crois qu'il va balancer une attaque. Ah non, c'est pas ça, malheureusement. Et donc, on a toujours dans les jeux de Treasure sur Saturn un mélange de 2D et de 3D. Comme la Saturn n'est pas très forte en 3D, c'est vraiment un mélange heureux. C'est-à-dire que tout ce qui doit être en 3D impérativement l'est. Et ouais, tout ce qui peut être affiché en 2D avec des zooms, des rotations de transparence est vraiment exploité à très très bon escient. Et Radiant Silver Gun, également ce jeu magnifique, hein, ce meilleur shoot'em up du monde. Et effectivement, la meilleure gestion de la 2D et de la 3D. C'est-à-dire, on a des boss en 3D au milieu d'univers en 2D.
C'est un vraiment bon mélange, je dirais.
C'est un magnifique mélange. Regardez ce petit passage, c'est un passage
très onirique. Si tu veux qu'on te voit, Piccolo.
On te voit là.
Non, parce que en fait, dans le montage, c'est coupé.
D'accord.
C'est la technique. Non, ce sera pas coupé, c'est du one shot.
Voilà, je me mets là.
Là, t'es bien là.
Regardez ce passage, c'est un passage très onirique, puisqu'on a en fait l'entité créée par hasard par l'humanité pour essayer de l'améliorer. C'est un petit peu toujours le même discours chez Treasure. Ils ont une approche humaniste finalement au sein du jeu vidéo, ce qui est très intéressant.
Je te passe le micro alors que tu as ton micro, excuse-moi.
Vas-y. Ah oui, c'est vrai. Et on a notamment dans Radiant Silver Gun, dans bien une œuvre cultissime au milieu de l'histoire du jeu vidéo.
Majeur, je dirais même.
Majeur, notamment majeur. On a un discours vraiment très humaniste finalement dans ce jeu vidéo. Si on s'intéresse au scénario, on s'aperçoit qu'il y a un mélange à la fois religieux, humaniste. Ce sont des humains qui vont défier Dieu qui a créé l'humanité, mais finalement qui ne la comprend plus parce qu'elle le dépasse.
Voilà.
Finalement, on est un petit peu sur ce même créneau.
La science, par contre.
Je vais continuer à jouer. La science qui dépasse finalement la création universelle, la création primaire de Dieu. Et Dieu qui se venge, qui veut détruire les humains. Et les humains, bien sûr, ne se laissent pas faire. Et on est un petit peu sur le même propos aussi, le Mirage, où cette entité déifique qui est capable ici, voilà, de...
C'est magnifique
ce passage-là. On est une création, un avatar. Monsieur Piccolo.
On va y aller parce que Vegeta, il s'énerve là-bas.
Ah non, Vegeta. Ouais. Va le calmer de suite.
À tout à l'heure, on revient.
Ok, bon, on se revoit tout à l'heure.
Ciao.
Tchuss. Super costume, magnifique.
Ah, il est très très beau.
Moi j'aimerais bien que dans l'assistance on aille me chercher Douglas tout à l'heure. Si on peut me trouver Douglas dans le coin.
Douglas
a quelque chose à nous dire.
Douglas, si tu nous entends.
Voilà. Alors oui, alors, parce que là on était en.
Voilà, ce temps-là, le compte,
on était accompagné d'Ami. D'ailleurs, tout à l'heure je vais aller sur la planète Vegeta pour régler le compte à Son Goku. Mais maintenant revenons à nos moutons, je dirais.
Non, revenons à nos moutons. Treasure est une société qui a émis pas mal de jeux, même sur les plateformes jusqu'à la Dreamcast. On lui doit également le Gradius 5 sur la PS2, qui est absolument magnifique.
Qui est édité par Konami, qui appartient à Konami, mais qui a été développé par Treasure.
Voilà, développé par Treasure. Et effectivement, quand on joue à ce jeu-là, ça se voit de suite que c'est du Treasure. Je veux dire, il est tellement beau, il est tellement... les effets graphiques sont tellement saisissants, même pour la PS2, qu'on est juste en admiration.
Oui, c'est vrai. Et moi, je pensais que tu allais en venir quand tu parlais de la Dreamcast. Alors je vais te laisser peut-être, là c'est le boss, c'est quoi, c'est une transition?
On va avancer, c'est la transition, on va changer les stages.
D'accord.
Vous allez voir que les stages vont s'enchaîner et ils sont tous différents et c'est simplement génial.
D'accord. Alors moi, pendant qu'on a cette petite transition, moi j'ai envie de parler de... Là il y a le silhouette et le mirage, tu nous expliquais.
Ouais.
Donc on change de couleur et on tue les ennemis selon les couleurs.
Et tu te vois venir.
Voilà, tu me vois venir. Ah, alors c'est-à-dire que ça veut dire que ce jeu-là est précurseur dans un système de gameplay qu'aura introduit Treasure.
Exactement.
Donc dans Ikaruga, c'est pareil, on change de couleur. C'est rouge ou blanc. Enfin, rouge, je dirais noir, rouge ou blanc, bleu. Et selon la couleur qu'on a pris, on peut tuer les ennemis exactement comme ce jeu.
Exactement comme Silhouette Mirage. On peut dire que Ikaruga, c'est le Silhouette Mirage du shoot, finalement.
Mais est-ce que j'ai envie de te poser comme question? Est-ce que toi, tu penses que Silhouette Mirage a posé les codes de cet aspect technique, changement de couleur?
Ah ben totalement, parce que c'était le but, c'était bien de produire un jeu dans lequel, enfin je parle de Silhouette Mirage cette fois-ci, dans lequel on allait être confronté à différents ennemis et la gestion même de la couleur, entre guillemets, de notre avatar est hyper importante et tout le gameplay est s'axe là-dessus. C'est-à-dire qu'on n'arrête pas de changer l'ennemi. Ah, c'est génial ce passage, ça s'écroule, il se barre en courant.
Alors moi j'ai une chose à te dire, alors ce jeu-là, il est sorti fin 97 de mémoire, décembre 97 au Japon.
Oui, exactement.
C'est ça. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Treasure n'a pas été précurseur dans le changement de couleur.
Allez, dis-moi pourquoi.
Alors là, on a ici, sur Neo Geo, un jeu qui s'appelle God Flop. C'est un prototype, c'est un jeu qui n'a jamais été commercialisé, qui est resté à l'état de prototype, un jeu dataïste. C'est un puzzle bubble, si tu veux.
Ouais.
Et en fait, tu as des boules noires, bleues, enfin des boules de plusieurs couleurs. Et le personnage, quand il va dégommer les boules, quand tu appuies sur le bouton, tu changes la boule qu'il envoie. Et selon la boule qu'il envoie, le changement de couleur, et ben il dégommera les couleurs qui lui correspondent.
Ah d'accord.
Donc ça veut dire, mais c'est un jeu qui est resté à l'état de prototype. Et donc c'est-à-dire que les premiers à avoir utilisé cet aspect-là, c'était Data East, sur un jeu qui n'a jamais été commercialisé officiellement.
Dommage.
Donc voilà, c'était pour l'histoire.
Mais c'est pas mal d'avoir trouvé ça, je trouve que c'est une bonne anecdote.
Tu vois, j'ai direct MO5, on est obligé de faire une émission avec MO5, on est obligé de parler du passé, c'est obligé. Et de sortir les vieilleries.
Ben, les bonnes vieilleries surtout.
Voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut dire d'autre là? Donc là, t'es dans quel stage?
On est dans le stage 2 et vous allez voir que y a un décor qui est magnifique. Hein, on est toujours en pur 2D, je me le rappelle évidemment. On a un décor extrêmement complexe, hein, vous
avec
le voyez.
Des effets miroirs.
Des effets de miroir, entre guillemets, c'est du parallaxe, c'est mis sur
un
plusieurs niveaux.
Enfin, ouais, c'est
totalement hallucinant. Et c'est vrai qu'au niveau pur hardware, seule la Saturn est la seule console au monde à pouvoir faire des effets ainsi en hardware. Sur toutes les autres consoles, notamment la PlayStation, il faudra programmer en software et donc ça sera moins beau et surtout ça ramera.
Voilà, exactement. C'est ça, c'est que ça rame. C'est-à-dire que c'est le logiciel qui le fait.
On arrive sur le passage que je vous ai décrit tout à l'heure, à savoir ce fameux boss de milieu de niveau. Vous allez voir que je vais me battre un petit peu contre. Mais finalement, c'est pas moi qui vais le terrasser. Ce sont les habitants parce qu'ils sont énervés.
Après, c'est celui que tu nous expliquais qu'à un moment donné, ils vont se révolter, ils vont venir, c'est ça. Ah, c'est magnifique.
Alors, ils se réveillent, ils s'énervent, voilà. Bon, je change de couleur, c'est-à-dire que comme j'ai deux couleurs, je peux faire en sorte que finalement mon avatar utilise la couleur que je veux, quel que soit le côté droit ou gauche dans lequel je me trouve.
D'accord. Ça, c'est quand même hallucinant, ces petites idées.
Voilà, on y est. Regardez bien ce qui va se passer. Donc le boss dit « Ah, mais attends, tu n'as pas tout vu, je vais déclencher mon super pouvoir. » Ok, bon, il dit « Pourquoi pas, vas-y bien mon coco. » Donc il s'énerve, mais comme ça fait tout trembler, ça énerve tous les habitants, et regardez ce qu'ils vont faire. Et ça, c'est vraiment l'humour de Treasure, complètement décalé. Il se fait terrasser par les frigos et les fours.
Ça, c'est excellent.
Et c'est excellent.
Ça, c'est tout
bonnement bourré de petits détails comme ça. Là,
ça, c'est très dur.
Bah écoute, on va continuer notre petit jeu. On va arriver à la fin du stage 2. On va enfin se battre contre l'entité suprême.
Et là, c'est Mirage. Est-ce que ça a un rapport avec le silhouette et Mirage?
Ah ben, c'est lui. C'est le Big Boss, en fait.
C'est le Big Boss que tu vois une fois et qui va s'en aller, j'imagine.
Et voilà, il va juste s'en aller une fois qu'on l'aura rossé suffisamment. On peut admirer quand même la richesse des coups. C'est ce qui me fait penser que des fois, c'est le Mirage, c'est du plateforme, du beat'em up et aussi un peu du combat. Parce qu'il y a plein de combos, il est en train de m'en balancer.
Alors, tu vois, il y a une chose que je vois techniquement. Dans les techniques, la Saturne, en théorie, ne fait pas de transparence.
En fait, si, mais elle en fait quand on lui dit d'en faire correctement.
Quand c'est dans le software ou... Parce que là, c'est pas la console qui le gère, la transparence.
Si. Mais en fait, il y a une petite astuce. C'est qu'elle est capable de faire de la transparence sur différents plans. C'est-à-dire qu'elle a quand même 7 plans séparés, graphiques, la Saturne. Hein. C'est-à-dire qu'on peut afficher 7 niveaux de décor séparés en hardware. Et pour elle, ça pose absolument aucun souci. Plus les sprites, plus etc. Et en fait, au milieu de ces 7 plans graphiques, elle est capable d'en afficher 2 en zoom et en transparence.
C'est énorme.
Donc par exemple, si on veut afficher une transparence sur les sprites, ben, c'est très simple, on affiche des sprites sur deux plans séparés et on fait appliquer la transparence sur un des plans. Et voilà, on a la transparence absolument magnifique.
C'est magnifique. Alors là, on arrive à la fin du deuxième stage.
Ouais, ben, je pense que je vais perdre un crédit parce qu'il est vraiment très dur.
Et combien il y a de stages?
Écoute, je ne veux pas dire une bêtise, je crois qu'il y en a 10, me semble-t-il. Et personnellement, je n'ai jamais fini ce jeu-là. Voilà, je viens de...
Tu l'as battu là?
Je l'ai battu entre guillemets, il va juste partir.
Donc t'as même pas perdu ton crédit?
Ouais, ça va, mais c'est borderline. Il faut savoir que quand je vais commencer le stage 3, j'aurai toujours aussi peu d'énergie, donc je vais pas aller très loin.
Ce qui est bien, c'est que tu vas perdre.
Et regardez ça, c'est merveilleux.
Ça, c'est magnifique.
Il fait appel à une entité, parce qu'il estime que bon, je suis un petit peu gênant. Donc il fait appel à une espèce de gros ballon très kawaii. C'est toujours très deuxième degré chez Treasure. Donc on a des boss gigantesques, c'est un boss, il est gigantesque.
Donc là tu vas le combattre là tout de suite là.
Je vais le combattre juste après dans le stage 3 et il a plein d'attaques séparées etc. Mais j'adore cette espèce de dualité voilà, entre le boss qui est gigantesque et finalement il a une figure tout à fait kawaii.
Voilà c'est ça.
Et c'est juste trop mignon quoi.
On est en plein brouhaha, comment on valide?
Je sais pas de quoi il parle, les gens, je ne veux pas savoir.
Je sais pas. Nous on est dans notre bulle, on s'est confronté à des Stormtroopers et on joue à un magnifique jeu.
Yes, je reprends mon avancée.
Bon, en plus on va pas tarder à arriver à la fin du jeu, donc est-ce que tu penses que là on en a montré suffisamment aux gens pour leur donner envie d'y jouer?
Ah ben pleinement, sachant que là on est qu'à peine au début du stage 3, c'est dire que chaque stage derrière, il y en a à peu près 7 supplémentaires. Ils sont vraiment fantastiques et... certains d'entre eux, on a des, qu'on s'appelle, des parallèles qui sont faits avec des animés. On peut parler de Lupin 3, on peut parler des films de Miyazaki comme Laputa. Il y a plein d'éléments qui sont repris.
Au
niveau design, au niveau Laputa, on arrive dans des décors de château dans lesquels il y a des boss monstrueux qui font plusieurs écrans qui ressemblent à des robots issus de Laputa. On a du Lupin 3 avec cet épisode au stage 4 où on est sur une voiture qui parle dans tous les sens et c'est
avec
génial.
Avec une espèce de monstre avec des petits,
voilà, des bras, avec des petits moignons et, voilà. Et c'est fantastique. Là encore notre robot, celui-ci c'est le même propos, je vais le pousser pour aller vers la fin, vers le bord du rail. Donc voilà, il vient vers moi, il a l'air tout fier, et moi je vais le pousser. Hop, avec mon pouvoir, et pomme.
Toujours pareil, toujours dans le même esprit de le pousser pour l'éjecter de décor.
Ouais, et finalement, les attaques, c'est jamais celle qu'on croit. C'est jamais aussi facile. Allez, tombe. Voilà, cette fois-ci, il va mourir.
Alors, moi, j'aimerais bien voir Douglas. Il avait quelque chose à nous raconter. Et après, on va peut-être un petit peu quand même parler de l'association Emo 5. C'est très important.
Yes.
Douglas, il est où,
on peut ressortir son anecdote. Ici, la voici.
Douglas, il est là. Viens, Douglas.
Viens, Douglas.
Alors viens nous expliquer Douglas.
Douglas qui est notre Google, c'est-à-dire notre encyclopédie du jeu vidéo sur pattes. Hein.
Alors Douglas, explique-moi ce que tu avais envie de nous dire. Tu avais une chose, mais il y a une autre chose qui est plus intéressante que ça.
D'accord, oui. Alors, Silhouette Mirage, quand il est sorti, son nom m'a marqué parce que en fait, il porte le nom d'un kit de développement fait par Nintendo. Qui s'appelait Mirage et qui servait en fait à développer les jeux Super Famicom sur un Apple 2GS et qui donna par la suite le nom à un émulateur toujours interne chez Nintendo qui s'appelait Chip Silhouette. Donc Mirage Silhouette.
Et donc toi tu penses qu'il y aurait une relation par rapport à ce jeu?
Je pense que c'est peut-être un clin d'œil quelque part.
Oui, mais la Super Famicom elle est de 97.
Oui, mais c'est les programmeurs de jeu. Ça se trouve ils ont pu bosser chez Nintendo avant ou faire un clin d'œil.
Ou alors est-ce que ce serait pas un clin d'œil par rapport à un jeu qu'ils avaient magnifique ça. Est-ce que ça pourrait c'est pas être belle. Un clin d'œil d'un jeu qui était peut-être prévu sur Super Famicom
et qui est resté à l'état
de projet?
Pourquoi pas? Peut-être qu'ils avaient commencé à développer ce jeu donc sur Super Famicom grâce au système de développement Mirage Silhouette et que peut-être ils ont, comme finalement ils l'ont sorti sur Saturn, peut-être qu'ils lui ont donné ce nom.
Voilà, c'est ça. Il y a peut-être merci Douglas, merci pour cette...
C'est mon Google. C'est génial. Vous voyez, il y a des espèces de créatures là qui sont emprisonnées, toujours sur l'esprit kawaii de Treasure. Et vous allez voir, derrière, le boss de million de niveaux, c'est une espèce de revolver. Et ce sont des balles, en fait. Et chacune des balles déclenche une espèce de kamehameha gigantesque. On va voir le pistolet avec la sélermée, regardez, les balles rentrent à l'intérieur. Elles vont déclencher le boss.
C'est magnifique.
Et c'est super inventif, c'est super créatif. Ce sont vraiment des génies, ces mecs de Treasure.
Alors c'est là le pistolet, là.
Regardez.
C'est une espèce de canon.
C'est un pistolet, regarde.
Oh, c'est magnifique.
Et vous allez voir, je vais m'avancer un peu. Et regardez les balles. Elles vont aller se charger dans le chargeur.
Ça, c'est excellent.
Et chacune des balles, elle a un pouvoir spécifique. Et je vais pouvoir renvoyer certaines attaques. Peut-être pas ça là. Si, voilà, bam, dans le canon.
D'accord, en fait, là, le principe, c'est que tu fasses ta magie. Est-ce voilà. que pour autant, ta magie, elle diminue? Non, elle diminue pas.
Non, non, elle diminue pas.
Alors, est-ce que tu te sens capable de faire les deux, de jouer? À ta tête, autre chose à nous dire?
Non.
Alors parlons un petit peu de l'association Emo 5, en plus là on arrive bientôt au terme du test, je dirais.
Yes.
Alors parlons un petit peu de l'association Emo 5. C'est quoi Emo 5? Et il faut quelque chose pour Emo 5, il faut faire quelque chose.
Bah, donc Emo 5, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une association qui a pour but de préserver le patrimoine numérique, hein, l'histoire du jeu vidéo, l'histoire de l'informatique, et puis tout ce qui est mobile, MP3, cinéma, etc. On a comme but ultime vraiment de créer un musée national qui soit dédié à tout cela, principalement le jeu vidéo, et c'est notre projet le plus porteur. Et on est actuellement en pourparlers finalement avec l'État, avec le ministère de la Culture, qui s'intéresse extrêmement de manière très forte à ce projet. Et on a toutes les chances vraiment de voir naître en France le premier musée mondial dédié intégralement aux jeux vidéo et au patrimoine numérique. Et on a un besoin très fort finalement au sein de l'association Emo5.com, c'est qu'on a besoin de membres. On a actuellement 70 membres et le ministère de la Culture nous offre la possibilité d'être reconnu d'utilité publique. Et ça, effectivement, en termes de développement pour une association en France, c'est ultime, c'est vraiment fantastique. Donc, On a besoin pour cela, il manque un statut finalement, quoi, bah, 200 membres. Il faut qu'on atteigne 200 adhérents. Donc, si vous aimez le jeu vidéo, si vous aimez le patrimoine numérique, si vous souhaitez voir en France réellement un jour un institut, un musée national du jeu vidéo, il faut s'inscrire à l'association National Club, il faut nous aider. Et si vous nous aidez, vous aidez également vous-même. Vous allez aider la mémoire finalement du jeu vidéo et vous allez aider la création de ce musée en France. Voilà.
Et je dirais donc, les gens ne le savent peut-être pas, je fais partie de l'association.
Mais oui, tu es un membre éminent.
Je suis membre de l'association. Il y a des gens comme Cyril Drevet qui sont membres de l'association.
Raphaël, qu'on a vu tout à l'heure. Voilà.
Marcus.
On a également des gens comme des créateurs comme Frédéric Reynal et Eric Chahi qui sont intéressés ou qui sont déjà membres. Et tous ces gens-là, finalement, on va tous se retrouver comme une immense famille de gens qui aimons, qui avons créé du jeu vidéo. Pourquoi ? Pour porter ce projet, voilà, le Musée National des Jeux Vidéo, et pour se retrouver tous un jour, finalement, dans cet institut qui sera tout à fait désigné à porter la mémoire du jeu vidéo et apporter tout le plaisir.
Il faut le battre, là, quand même, là.
Ouais, on va y arriver. Mais...
Alors, j'ai une chose à dire, c'est que l'association, c'est pas seulement aussi le fait d'avoir le musée. C'est-à-dire que si tu es membre, tu peux venir à Arcueil, il y a un local, un immense local, où il y a toutes les consoles possibles et imaginables, et le week-end c'est ouvert, et les gens peuvent venir jouer, aider à référencer les consoles, à bidouiller les consoles, à tripouiller, et vous avez même, au-delà de tout ça, vous avez vous êtes une mémoire par rapport à ça, on peut même venir discuter avec vous, et nous apprendre énormément de choses, comme on parlait tout à l'heure des plans, la technicité des consoles, tout ça. Il y a des gens hyper calés comme toi, comme Douglas, comme plein d'autres. Et c'est aussi ça, au-delà du musée, qui est déjà très important.
Bien sûr.
Mais c'est cet aspect gaming, on rencontre entre nous tous, quoi.
Tout à fait. Ben, avant, bien évidemment, d'arriver au projet de musée national, parce qu'il faudra quelques années, certainement, pour le développer, on a tout l'aspect préservation, restauration, échange de compétences, d'expérience au sein de l'association, et nous réunissons, regardez, c'est magnifique. Nous réunissons tous les samedis après-midi dans nos locaux d'Arcueil pour justement aider à préserver, restaurer les vieilles machines, les vieux logiciels et fonder ainsi la collection qui sera mise en valeur dans le futur musée national. Et il faut bien le voir comme étant un travail gigantesque et on a besoin de toutes les bonnes volontés pour y arriver.
Voilà, et c'est-à-dire que, donc, salut. Donc c'est vrai que le week-end c'est ouvert, on peut venir jouer à la console, on peut venir discuter, il y a des bandes d'arcade, il y a la bande Outrun, il y a toutes les consoles qui existent sont là. Voilà. Vous les avez.
On a certainement pas tout, mais on a beaucoup de choses, en tout cas beaucoup de...
Disons que la grosse majorité vous les avez.
Effectivement, tout ce qui a été au moins commun, connu par le grand public et qui est présenté généralement sur les expositions sont en notre position, avec également des bandes d'arcade, même des meubles dédiés, dedans la bande Nintendo, donc les Konga qui est là.
La Master System,
la Dreamcast, la PlayStation 2, on en a beaucoup. Et on a besoin, voilà, de gens qui vont nous aider à restaurer, à préserver ces pièces-là dans l'attente de la construction du futur musée national.
Voilà, donc on va juste terminer encore une minute. Et donc effectivement, donc il y a l'adresse qui s'affiche ici, là. Donc il y a le site internet, s'ils veulent éventuellement venir voir. Ils peuvent même peut-être venir à Arcueil un samedi pour voir comment ça fonctionne, comment ça se passe. Voir si l'esprit leur convient. Et puis c'est faisable, ça aussi.
Tout à fait. Il suffit de nous écrire. On est vraiment des gens très simples, conviviaux. On est des amoureux de Bomberman en concours. C'est-à-dire qu'on adore... la convivialité, donc n'hésitez pas à nous contacter et surtout à devenir adhérent pour supporter notre action et faire en sorte que le jeu vidéo puisse rentrer dans un vrai musée national un jour.
Voilà, et puis si vous venez, on pourra peut-être se rencontrer parce que moi j'y suis de temps en temps, il y a Cyril Drevet qui y est, Marcus des fois il passe, il y a un peu tout le monde.
Tous les amis du jeu vidéo sont avec nous maintenant.
Voilà, donc alors on va conclure sur le jeu, alors maintenant, conclusion. Avec ton micro.
Ok, conclusion, que dire si ce n'est que Seigneur du Mirage est un jeu incontournable, il est assez méconnu puisque bien sûr il n'a pas été importé comme beaucoup de bons, très bons jeux sur Saturn, il n'a pas été importé en dehors du Japon, mais c'est très très dommage. Et Treasure d'une manière globale, pour un amoureux du jeu vidéo, pour quelqu'un qui aime l'histoire du jeu vidéo, c'est une société phare parce qu'elle a su justement donner ses lettres de noblesse au jeu vidéo en apportant un aspect créatif extrêmement important pour tout ce qui est level design, au niveau interactivité, au niveau graphisme, au niveau sonore. Et donc, s'intéresser aux jeux vidéo réellement pour son histoire, sans connaître Treasure, sans avoir expérimenté tous les jeux qu'ils ont pu produire, en tout cas les plus phares d'entre eux, c'est simplement impossible.
C'est vrai.
Voilà.
Et alors, on a une coutume dans l'émission, c'est que c'est l'invité, je dirais. Là, je dirais que c'est moi l'invité aujourd'hui.
Et quelque part, oui, tu es mon invité.
Voilà. Et mais c'est l'invité, c'est le testeur. Voilà, comme ça, c'est plus simple. C'est le testeur qui dit au revoir aux gens. Qui fait la conclusion de tout ça, qui dit au revoir à un de ces jours. On se retrouve à Emo 5.
Bah écoutez, j'espère que le message est passé tout de même. Vous savez qu'on est sur une bonne voie, une bonne piste. Hein. On a besoin de vous, on a besoin de votre mémoire, de votre capacité à traiter l'histoire des jeux vidéo. On a besoin de vous pour en discuter, on a besoin de vos attentes également pour cerner au mieux qu'est-ce que contiendra le futur musée national. Donc rejoignez-nous, vous verrez, c'est extrêmement sympa. On fait des soirées très régulièrement. Et même au sein du futur musée, on fera des grandes soirées Tonton Bomberman à peut-être 50, 100, 2000 personnes, on n'en sait rien. Mais voilà, rapprochez-nous, contactez-nous. On est, je pense, des gens très très sympas.
Je valide. Et donc en fait, tu dois dire au revoir.
Allez, au revoir.
Au revoir.
Merci. Un grand, grand merci à notre ami Wawa pour ce Retro Game Fest. Ouais. Et on espère te revoir très très bientôt.
Pas de soucis. Tchuss.